Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. De suite après les informés d'Adil Farkan, 19h-20h. Place à votre quotidien sportif qui est Time Sport du lundi au vendredi, 20h-21h. Au menu de cette émission, allez, en ce mercredi 15 décembre, à l'écoute avec Giovanni, notre réalisateur, on parlera de la CAN, eh oui, 2022, du côté du Cameroun, encore contesté, voire annulé, le dernier carré de cette fameuse Coupe arabe au Qatar, eh oui, qui voit filer les Aigles de Carthage en finale face au Pharaon, 1-0 dans les arrêts de jeu. Et ce soir, justement, ça a commencé. Allez, le match à 20h, Algérie-Qatar. Guardiola qui cartonne, qui détruit même, eh oui, son homologue qui est Marcelo Bielsa. Eh oui, 7-0, les Citizens. Aïe, 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 ça promet ça sur ce championnat qui est le football anglais, la Première Ligue. On parlera aussi, c'est promis, de tout ce qui touche autour du sport, notamment avec les venues, les départs dans cette planète mercato hivernale. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000. On aura Libby Bantana ce soir dans cette émission pour nous accompagner, un invité de prestige, sans oublier aussi Danny Dan. Voilà, Danny Dan qui est aussi le chef de troupe, si je peux me permettre, membre de l'équipe de France qui a rallié les quarts de finale des championnats du monde de breakdance. Justement, c'était samedi dernier au théâtre du Châtelet. Voilà, il sera avec nous via téléphone. Allez, c'est parti avec le JT Sport de Jason.
Time Sport. Et oui, on démarre les infos du mercredi par la grande annonce du jour. Sergio Agüero, contraint de stopper officiellement sa carrière. L'Argentin, vainqueur de la Copa América l'été dernier, a réuni cet après-midi à Barcelone une trentaine de coéquipiers et ex-coéquipiers pour faire ses adieux au football à l'âge de seulement 34 ans, après avoir brillé notamment en Europe du côté de l'Atlético et Manchester City, où il reste le meilleur buteur de l'histoire du club avec 260 buts, ainsi que plusieurs premières ligues remportées, avant de débarquer cet été bien sûr au Barça, où malheureusement il n'aura pu inscrire qu'un seul but en 5 apparitions seulement. On continue avec l'Argentine puisque c'est officiel, une Supercoupe d'Europe et d'Am Sud aura lieu le 1er juin 2022 entre l'Italie, vainqueur de l'Euro, et l'Argentine, vainqueur de la dernière Copa América. Les deux nations se rencontreront à Londres. On termine avec du basket et l'incroyable performance cette nuit de Stephen Curry, devenu le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA devant Ray Allen. Le meneur des Warriors totalise actuellement 2964 points depuis le début de sa carrière dans la compétition. Et pour l'anecdote, Golden State s'impose 105 à 96 face aux Knicks. C'est tout pour ce soir, en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et merci Jason, voilà pour ce fameux JT Sport. On répète le numéro du standard, le 01-53-48-3000. Et ce soir, pour m'accompagner dans l'équipe de Time Sport, on aura notre consultante Yasmine. Comment ça va?
Ça va super, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on a une équipe de folie, des guests
ça
de haute qualité.
Ouais. Ouais,
en
comité restreint, hein. C'est un habitué l'invité.
On est bien, hein.
Il le sait,
bien.
Il le connaît bien, Louis-Marie aussi. Hein. Ouais, il est à la maison. Louis-Marie, comment ça va?
Ça va bien effectivement, une équipe restreinte, mais il n'y a que les meilleurs ce soir.
Aïe, c'est la Champions League, c'est ça?
Exactement,
allez,
Louis Montana. C'est la Champions League.
Ouais, c'est la Champions League sur l'antenne de Beurre FM ce soir.
On est 4 derniers carrés.
Voilà, c'est le dernier carré. Ouais. C'est un plaisir de vous avoir à l'ébi avec nous sur l'antenne de Beurre FM avec des nouveaux titres encore une fois.
Ouais, des nouveaux titres.
On va essayer de les faire passer tout à l'heure.
C'est toujours un plaisir de venir te voir avec ça et de venir te voir pour être là tout court. C'est toujours un plaisir.
Même nous, vraiment. Allez, bien, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission avec cette fameuse CAN. Eh oui, qui doit débuter, début 2022, on l'espère. On va savoir si elle débutera bien du côté du Cameroun. Allez, on y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Il y a des joueurs, il y a des clubs qui menacent d'y aller à cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. Et là aussi, c'est cette organisation un peu à la va-vite, quoi, vite braque, selon certains. En tout cas, on aimerait la jouer.
C'est pas normal.
Les nations africaines, c'est pas normal.
C'est pas normal qu'il y ait des incertitudes, qu'il y ait des soucis pour libérer les joueurs, parce que c'est une grosse compétition très importante, tu vois.
Ouais.
Et donc, moi, je trouve.
Elle a bien évolué en plus.
Qui a super bien évolué. Et je trouve que j'ai l'impression que la compétition n'est pas assez respectée. Ne serait-ce que parce que souvent il y a des soucis pour libérer des joueurs, tu vois.
Ouais.
Ce qui n'arriverait pas sur des compétitions européennes.
Ouais, peut-être.
Et, c'est sûr, ça n'arrive jamais, même.
Ouais, avec les compétitions européennes, voire sud-américaines. Ouais, ouais.
Voilà, j'ai jamais vu ces compétitions-là où il y a des clubs qui refusent de libérer les joueurs. Et là en plus qu'on est, ces gens, c'est indéterminé, ça risque de pas se faire. Je trouve que c'est pas normal, quoi.
Ah, ouais. Marie, alors.
Ça fait pas sérieux, encore une fois. On parlait, on parlait hier des.
Le manque de sérieux.
Du manque de sérieux qu'il y a eu à l'UFA, du manque de sérieux qu'il y avait à la FIA pour le Grand Prix de F1.
Avec la Formule 1.
On est un peu dans le même truc. Comment on peut se retrouver dans des événements pareils, être dans un flou artistique? Alors, ok, il y a le Covid. Très bien. Enfin, on commence à connaître l'histoire. Le Covid, ça fait 2 ans.
Bien sûr.
Bon, il y a un
moment. Toujours en crise sanitaire.
Il y a un moment, je comprends pas que ça soit pas réglé. On a l'impression que les clubs se réveillent au dernier moment. Ah, au fait, mes joueurs vont partir au Cameroun. Ok, d'accord, mais enfin, ils le savent depuis plusieurs mois, là. Ça fait pas.
Bien sûr.
C'est pas depuis hier qu'il a
pris. En plus, quand un club signe un footballeur africain, il sait qu'il est susceptible de jouer à la CAN.
Et c'est même justement un argument. Ouais. Alors après, si on déplace un peu le débat, ça va être intéressant d'en parler. Moi, ce que je trouve dommage avec cette CAN, elle est pas respectée. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Alibi, parce qu'il y a un moment. C'est quand même une compétition magnifique et qui n'est pas mise en lumière, mais elle n'est pas mise en lumière aussi, je pense, par son calendrier.
Alors,
je sais que l'Afrique, il fait chaud, je sais que c'est compliqué.
Bien sûr.
Mais moi, j'ai tendance à penser que si on veut faire une grande compétition, pourquoi? Et c'est le même. Et j'irai pareil avec la Copa América, je trouve que c'est le même débat. Pourquoi on ne ferait pas une, entre guillemets, au même moment, les grandes compétitions continents? C'est-à-dire que quand il y a l'Euro, bah, à peu près au même moment, à 15 jours près, il y a la CAN. Au même moment, il y a la Copa América.
Ouais.
Sur l'été. Pourquoi?
Mais ils l'ont fait aussi. Bah, sur l'été.
La dernière CAN en 2019, c'était en été, la victoire de l'Algérie.
Mais ils l'ont changé.
Mais pourquoi ne pas harmoniser les calendriers? Ça serait beaucoup plus simple et ça éviterait les problèmes dont parlait Alibi.
Ouais.
Le club qui rechigne clairement à lâcher leurs joueurs. Et même, les joueurs, c'est un handicap pour signer dans un nouveau club. Parce que la réalité, c'est qu'ils savent que tous les 2 ans, ils vont se retrouver à être embêtés 1 mois et demi en hiver. Et être tiraillé entre leurs clubs qui leur met la pression pour arrêter leur carrière internationale, parce qu'il y en a plein qui se sont retrouvés devant ce dilemme. D'un côté, le club qui te paye, qui te rémunère, et de l'autre côté, ton pays, c'est des dilemmes que ne devraient pas avoir à connaître les joueurs.
Bien sûr.
Et ce dilemme, on l'a parce que organiser des compétitions en même temps que d'autres, c'est aberrant. Moi, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à harmoniser ce calendrier. Il y a peut-être des choses qui me dépassent.
Non, je pense que c'est une histoire de volonté. Les gens qui dirigent les instances, ils sont très intelligents. Hein. En tout cas, autant que nous, beaucoup plus, voire. Et je pense que c'est une histoire de volonté. Parce que ça, je pense qu'ils y ont déjà réfléchi, ils en ont déjà discuté. Et si ça ne se fait pas depuis tout ça de temps, je pense qu'il y a une volonté aussi de ne pas le faire.
Oui, cette volonté, selon ADB. Alors, Yasmine.
Moi, je suis assez. Effectivement, je suis assez déçue.
Ouais.
La CAN a déjà été reportée cette année. Donc, elle devait être l'année dernière. Elle est arrivée cette année. Tu parles de calendrier. Là, par exemple, pour cette saison, je ne vois pas à quel moment on aurait pu organiser la CAN, sachant qu'il y a le Qatar, le mondial du Qatar en 2022 à la fin de l'année. Après, dans un second temps, moi, je comprends aussi les clubs qui ne veulent pas forcément libérer les joueurs, parce qu'avec tous les protocoles sanitaires qu'il y a, etc., derrière, notamment dans le championnat anglais.
Bon, ils le suivent, hein.
Effectivement, quand les joueurs reviennent, ils vont être obligés d'être confinés un certain nombre de jours. Déjà, la CAN dure, je crois, à peu près un mois, de janvier à février. C'est énorme quoi pour les joueurs. Après, tu as des.
On les vivent dans une bulle aussi, Yasmina.
C'est le même problème pour l'euro. Ouais,
effectivement.
Hein. Ils vivront en tout cas. Pareil, tu vois.
Ouais, mais la différence de l'euro,
alors,
si je puis me permettre,
vas-y.
C'est qu'après, il y a les vacances. Tu vois, l'euro, il finit mi-juillet.
Ouais.
Et après, au pire, si les joueurs ils peuvent se confiner, partir en vacances, c'est pas le même délire.
Ouais.
Là, les joueurs, il y a la Ligue des Champions qui arrive juste après la CAN. Imagine, l'Algérie va loin.
Ouais.
Ce qui est très probable.
Alors, c'est vrai.
L'Algérie va très loin. Il y a Mahrez qui est quand même un des meilleurs joueurs de Manchester City, qui est en même temps, qui donc va devoir jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Je sais pas comment tu vas le retrouver pour le Mondial 2022 aussi.
L'enchaînement des compétitions est compliqué, mais imaginons, tu vois, on parle de confinement, le mec il va peut-être pas s'entraîner, alors que la Ligue des Champions arrive juste après la CAN. Moi je comprends City qui se dit, le mec j'ai envie de le mettre dans le formol. Parce que sinon, je vais peut-être pas l'avoir pour les huitièmes.
Exactement la même chose pour Liverpool.
Après, c'est pareil pour tous les clubs aussi. Si tout le monde réfléchit comme ça,
tu
te retrouves avec plein de joueurs qui sont pas libérés.
On le disait, on fait pas avancer le football.
Juste, tu regardes en Ligue 1, on va dire les 4 derniers du championnat, c'est eux qui perdent le plus de joueurs africains pendant.
On connaît la tradition de Metz, par exemple, avec le football africain. Ils sont très très implantés là-bas. Mais on est d'accord. De toute façon, on dit tous la même chose, c'est que il y a des problèmes. Et que ça vient peut-être d'un non-respect du foot africain, ça c'est tout à fait possible, ça je veux bien l'entendre. La réalité c'est que tant qu'il y a cette temporalité qui est en janvier, ça créera toujours des problèmes, on aura les mêmes débats tous les 2 ans, avant la CAN, parce que les clubs feront tout, parce que c'est eux qui les payent. Parce que les clubs ils se disent, en même temps, en janvier c'est moi qui le paye le joueur. Donc c'est moi qui le paye, et en plus je risque de le perdre plus d'un mois et demi avec les
confinements.
Alors Yasmine.
Ce qui me dérange réellement c'est que on a l'occasion une fois dans l'année d'avoir, on va dire, les yeux rivés sur l'Afrique. Et là, si on nous reporte encore une nouvelle fois à Cannes, là, ça sera pour une ça sera.
Alors justement, pour revenir là-dessus, les yeux rivés sur l'Afrique. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a les yeux rivés sur l'Afrique alors en même temps tous les championnats qui se jouent? Moi, je suis désolé. Honnêtement, il y a tellement de foot en cette période. Ce qui serait beau, c'est que pendant 3 semaines,
C'est une histoire de calendrier aussi, le mari. Oui.
Non, mais d'accord, mais si tu alternes un peu, si tu te débrouilles pour qu'il y ait une alternance.
On aurait dû la faire.
C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'une histoire de volonté.
Volonté.
Il n'y a pas la volonté de faire ça.
La cause, justement, Alibi, la cause, c'est dû à des multiplications de nouveaux cas de Covid-19 et dû aussi aux variants. Omicron, Et c'est pour ça, il y a une peur de la faire.
Non, mais ça.
Cette fameuse canne.
Ça, c'est l'excuse qu'on met parce que. Même avant, quand il n'y avait pas de Covid ou pas de variant Omicron, je trouve pas que la canne était aussi mise en avant que ça. Donc, c'est un problème qui date d'avant le Covid.
Il a tout à fait raison.
Parce que
concrètement, qu'est-ce qui se passait avant? Les clubs râlaient. Il y avait combien de joueurs ont été mis sous pression pour déclarer qu'ils arrêtaient leur carrière internationale pour pouvoir signer dans tel ou tel club? Au moment des négociations, ils disaient: ok, très bien, tu vas signer dans ce grand club, tu signes le contrat de ta vie. En revanche,
tu parles des joueurs africains.
De joueurs africains.
Après, je pense qu'il y a aussi un autre problème. Je pense que par rapport aux joueurs africains, il y a aussi des soucis par rapport aux
présidents,
par rapport aux fédérations. Je pense qu'il y avait des soucis sur les primes. Il y a pas mal de choses comme ça aussi qui rentrent en compte.
On en a parlé en plus.
Bien
récemment.
Sûr. Non, mais ça, on est d'accord. Mais malgré tout, justement, c'est une raison de plus pour que les joueurs africains ne fassent pas la CAN. Et combien de fois on s'est dit c'est dommage, tel ou tel joueur, tel ou tel grand joueur ne participe pas à la CAN.
Ah, vrai.
Ça arrivait régulièrement.
Ouais.
Et finalement, c'est parce que les clubs n'ont pas envie de les libérer à ce moment-là. Ils leur mettent la pression au moment de signer. Ils mettent la pression avec leur entourage parce que c'est une compétition qui rapporte rien aux joueurs.
Ça tombe mal.
Ça rapporte rien. Ouais. Et en termes de marketing, ça rapporte pas grand-chose.
Aujourd'hui, non, le mari. Aujourd'hui, quand même.
Malheureusement, financièrement, ça reste très minime encore, malheureusement.
La CAN a bien évolué. Ces 10 dernières années.
Le vainqueur de la CAN, je crois, gagne 3,5 millions de dollars.
Ouais.
Comparé au vainqueur de la Coupe arabe, c'est 5 millions de dollars.
Ouais.
Donc.
Au-delà du vainqueur, je te parle des sponsors économiquement en termes de marketing, comme l'Afrique.
C'était quoi? C'était le sponsor total, c'est ça?
Oui, mais après, il y a très peu de sponsors qui mettent énormément d'argent et donc qui vont valoriser les joueurs qui font la CAN.
Ouais.
Alors qu'une sélection en équipe de France, par exemple, pour l'Euro, ça fait monter ta cote auprès de ton sponsor et tu gagnes plus d'argent parce que tu as une visibilité sur toutes les télés du monde.
Bien sûr.
Alors que la CAN, on n'en est pas encore là. Donc,
pour la publicité aussi. Parce que quelqu'un. Comme ça, se retrouve avec énormément de contrats publicitaires, tu vois, contrairement à la CAN.
Donc finalement, les joueurs n'ont pas intérêt à y aller, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut féliciter les joueurs qui le font. Moi, j'ai toujours eu un très très grand respect pour Didier Drogba, qui a toujours toujours défendu les couleurs de son club national. Ou Samuel Eto'o, qui est les joueurs.
Samuel Eto'o, nouveau président, fraîchement élu.
Voilà, et c'est des mecs, ils ont fait des sacrifices.
Fédération camerounaise.
Ce qui est pas, ça n'est pas normal qu'on doit faire des sacrifices pour défendre son équipe nationale.
Après,
allez bien avant la pause.
Samuel Eto'o vient juste d'être élu, donc j'attends ce qu'il va faire.
On va voir sur son mandat.
Dans son mandat, mais je pense que c'est quelqu'un qui va arriver avec des nouvelles idées fraîches. Et qui va essayer de bousculer les choses.
On nous laisse là. On l'espère en tout cas, Alibi. On l'espère en tout cas, tout comme Alibi, qui amène ce côté, cette fraîcheur, ce dynamisme. Eh oui, sur notre antenne, mais aussi à travers le monde qui est celui de la musique et celle de la culture. Vous restez avec nous. On revient rapidement avec son nouveau tube d'Alibi Montana, La Cale. Et on aura aussi notre second invité qui est Danny Dan. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 21h avec Yasmine, notre consultante, tout comme Louis-Marie, accompagné d'un certain Alibi Montana. Et oui, la Calais, justement, qu'on vient juste d'entendre pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs de Beurre FM. C'est bien ça?
C'est ça, la Calais. Voilà.
Et justement, d'où il vient? D'où il provient ce nouveau single?
La Cahier, la Cahier. Ça veut dire la rue. Ouais. Discuter avec Paola, avec Majid, et la rue, c'est quelque chose qui est important
Majid,
pour moi.
Passe le bonsoir.
Tu vois, il y a 15 jours, j'ai eu la médaille de la ville à Guignes, justement, par rapport au fait que des actions que je fais envers les jeunes.
C'est ça.
Et comme la rue, c'est important. Donc, troisième morceau avec Pour la Soirée, on s'est dit, on va mettre la rue en avant, même si c'est une histoire d'amour. Et bien je le dédicace à ma femme qui écoute, à Salem et toute sa famille qui écoute. Et j'en profite pour féliciter tous les Tunisiens parce qu'ils sont qualifiés.
Ah ben les Tunisiens, on va revenir sur les Tunisiens, bien sûr.
Et Salem, mon ami, c'est un Tunisien.
Ah ben Tonti, ah ben c'est bien. Voilà, les Aigles de Carthage, ils méritent leur place en finale de cette fameuse Coupe arabe. Allons, on reste avec Adebi Montana, ça c'est promis. Hein, et toutes les auditrices et les auditeurs. Mais on va passer à un second invité qui n'est autre que Danny Dan.
Time Sport. The Special One. The Special One.
Eh oui, le breaker tricolore vedette en tout cas. C'est comme ça qu'on l'annonce des mondiaux de Paris du côté du Théâtre Châtelet dans une ambiance survoltée. C'est bien ça, Danny, hein?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, je suis Danny Dan.
Ouais, comment ça va, Danny Dan? Alors justement, à l'approche des JO Paris 2024, hein. Eh oui, le breakdance sera là, bien présent.
Oui, il sera là. Donc je me prépare tranquillement, mais sûrement. On espère que ce sera moi, parce qu'on est bon, on est en train beaucoup de participants, mais
ouais.
J'espère que ce sera moi.
Ah ben on l'espère en tout cas.
Oui, j'espère aussi. On prépare ça doucement, mais sûrement.
Ouais, justement, cette préparation, comment se passe-t-elle avec cette crise sanitaire? On tient à le rappeler qu'elle est toujours présente.
Oui, elle est toujours présente. Bon, après, moi, en termes d'entraînement, je me prépare dans ma salle et dans mon garage.
Ouais.
Mon garage que j'ai aménagé. Et après, j'ai mon coach sportif où on s'appelle, on se fait des visios pour se préparer ça tranquillement.
Ah bah ça...
Donc c'est que on prépare la machine de guerre, on va dire.
Ouais. Ah ben, il en faut, je crois. Hein. Yasmine, avec nous, la consultante alors. On t'écoute, Yasmine.
Oui, salut Dan. Moi, j'avais une petite question. Je sais que c'est vrai que le breakdance a été assez décrié ces derniers temps. Je voulais savoir qu'est-ce que tu répondais, toi, aux personnes qui critiquaient le fait que le breakdance, peut-être, n'était pas un sport et n'avait pas forcément sa place aux JO.
Ah bah, j'allais poser la même question.
Ah, bah ouais. Ah.
Voilà, du coup. Bon, après, pour ma part, chacun a son avis. Pour moi, j'arrive à concilier les deux, ça veut dire le côté sportif et le côté artistique. Donc mon côté b-boy, mon côté préparation sportive, j'arrive à le mélanger avec mon côté artistique b-boy. Mais pour moi ça marche ensemble, ça veut dire s'il faut danser 15 fois 30 secondes avec 15 secondes ou 20 secondes de récup, si on n'a pas une condition physique, ben, ça va pas marcher. Et pour moi, c'est un sport, c'est des choses qui sont liées. Donc moi, pour ma part, ça va ensemble. Après, pour d'autres, non. Et après, il faut avoir les codes, il faut avoir la culture, il faut s'intéresser aux d'autres choses du hip-hop, qui fait que voilà, c'est du hip-hop. Donc pour ma part, ça va ensemble. Et j'espère que voilà, ça aura sa place au JO, comme ça, on sera reconnu et on aura les droits qui jouent avec, on aura tout ce qu'il faut, tout sera mis en place.
Et surtout à Paris.
Oui, surtout à Paris.
Dans la ville où vous avez grandi. Oui, c'est incroyable quand même.
Mis en place pour les danseurs et pour qu'ils se mettent dans les meilleures conditions.
Ouais.
Donc la première à Paris, moi je trouve ça super.
Incroyable.
J'espère que ce sera moi.
Ouais.
Parce que ce que j'ai vécu à Paris, j'espère le revivre encore parce que le public, ils m'ont donné quelque chose vraiment de.
Ouais.
Ils m'ont donné ce que j'attendais. Donc moi j'espère vraiment leur redonner ça en 2024 et que ça soit parfait en fait, que ce soit à refaire.
Ben moi, on est avec Adebi Montana, justement, ça tombe bien. Eh oui, on parle de breakdance, du hip-hop, du rap. Alors, Adebi, une réaction avec Danny Dan.
Ça me parle, tout ça, ce que dit Danny. Bien sûr, le hip-hop, c'est très important pour moi.
Ah oui.
C'est une des disciplines. Je veux dire que le hip-hop a plein de disciplines comme le rap, le graphe, la danse, etc.
C'est ça.
Et moi, ce que je voulais savoir, c'était que quand auras-tu des réponses par rapport à 2024? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça peut se passer pour toi, pour la discipline, quoi?
Bon, après, c'est que moi, je veux dire qu'en termes de danseur, on est en bas de l'échelle, on attend la réponse.
Mm-hmm.
Tout se passe au niveau des bureaux et tous ceux qui gèrent la paperasse, en gros. Ceux qui décident, ceux qui ont le dernier mot, en fait, c'est eux qui vont batailler.
D'accord. Mais toi, t'as déjà rencontré des gens, type Anne Hidalgo ou le président des JO, des gens comme ça, ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Ah ouais.
J'ai juste, moi, je parle juste avec l'entraîneur encadrant qui est Abdel, celui qui gère du moins les entraîneurs FFD, le directeur et tout. Donc, on en parle et ils nous font des retours et nous on a que ça pour le moment. Après moi pour ma part chacun a sa place. Ça veut dire moi je suis danseur, je vais pas me présenter dans les bureaux, je suis danseur, mm-hmm. je reste à ma place.
Bien sûr.
Et là, d'autres qui ont dansé, qui ont arrêté de danser pour se mettre au front, pour aller au bureau, pour régler tout ce qui est paperasse.
Ouais.
Chacun à son poste.
Très bien.
Ouais, votre domaine.
Moi, j'attends juste, que je suis pour. S'il faut militer, on va militer. Mais je reste à ma place et j'attends ce que moi, mon équipe, vont dire par rapport à ça.
Très bien. Sûr, Dani. Allez, le mari.
Alors,
on poursuit l'interview.
Bonsoir, Dani. Moi, je vais te donner l'occasion de militer, en l'occurrence.
Alors,
pour être tout à fait honnête, je fais partie des gens qui ont du mal à voir, non pas l'intérêt ou quoi que ce soit de ces sports qui sont intéressants, mais comment ces sports peuvent fonctionner au JO, sachant que ce sont des sports assez artistiques où il y a une note et des juges. Est-ce que ça sera facile à comprendre pour le public qui gagne pas? Est-ce que c'est clair? Comment ça?
Alors,
en fait, il faut que tu m'expliques comment ça marche et comment est-ce que le vainqueur, quand je regarde à la télé, ça me paraît très évident comme un
jury,
100 mètres.
Il y aura un jury, je pense, certainement. Mais il y aura des juges, je pense.
Comme il y a toujours eu des polémiques avec les sports à notes au JO, toujours été un vrai problème.
Ou surtout avec la boxe, le patinage aussi.
Voilà, sports artistiques, ça a toujours soulevé des débats au JO. Donc, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer?
Intéressant.
Est-ce que ça prête à débat, le breakdance, entre qui a gagné et pas gagné?
Après, le truc, c'est que bon, il y a un jury. Et le jury, voilà, ce sont des êtres humains comme nous, c'est eux qui choisissent. Et arriver à un certain niveau, c'est même pas le plus fort qui gagne.
Alors
c'est les goûts et les couleurs. Ça veut dire que c'est celui qu'on a préféré, c'est même pas celui qui est plus fort que l'autre.
Donc il n'y a pas de figure imposée, de choses comme ça?
Il y a des bases, il y a des figures de base à savoir, à connaître, à savoir voilà, comment ils vont les enchaîner. Il y a plein de petits codes, il y a des codes à savoir. À avoir une base de données à connaître, à reconnaître le mouvement qui est normal. Et après, c'est comment le danseur va l'exécuter, comment il va s'approprier la musique, il y a tout un style. Donc, c'est ce qui permet que c'est une danse à part entière. C'est-à-dire
d'accord. Et le système de points, ça marche comment? Le pointage, concrètement?
Mais en fait, c'est un pourcentage. Ça veut dire que si le juge, c'est pour ça qu'il y a plusieurs juges, c'est eux qui estime le pourcentage que si tu as perdu, si tu as gagné.
Ah, c'est des battles en gros, c'est ça que tu me dis, c'est des battles.
Oui, c'est des battles.
Ouais, sous forme de bas.
Et on passe un après l'autre entre 30 et 45 secondes.
Après, il y a un jury qui est là, il faudra lui faire confiance. C'est comme pour la boxe, des fois, il y a eu des décisions qui n'ont pas plu.
C'est pour ça au JO. Parfois,
il y en a eu pas mal.
J'ai l'impression qu'il y a des polémiques à chaque fois. Hein.
Et pourtant, la boxe, c'est un sport majeur. C'est
bien
pas
sûr.
Pour ça qu'on essaie de changer.
Les Jeux Olympiques, c'est sûr. Et là, il n'a pas tort l'invité aussi, à Alibé Montana. Oui, Yasmine.
Oui, j'avais encore
avec Dani Dan. Alors, avant de le laisser filer.
J'imagine que tu as fait des compétitions internationales. Moi, je ne vois pas du tout ce qui se fait dans d'autres pays. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le niveau des autres nations aussi?
Le niveau des autres nations, j'avoue qu'ils sont, ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts.
Tu parles des États-Unis, par exemple?
Les États-Unis, oui. Après, il y a juste quelques danseurs qui font la différence. Mais en fait, ils sont là sur tous les fronts. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une compétition, ils arrivent à se qualifier et à être présents, en fait. Donc, ce sont des bons compétiteurs, des bons challengers. Donc, il y a les États-Unis, il y a la Russie. Il y a la Corée, en fait, il y a beaucoup aussi les pays de l'Est, en fait, qui remontent dans le haut du classement des danseurs dangereux.
Ouais.
Après, il y a les Français, nous, on est redescendus au classement.
Ouais, c'est pas bon, ça. Pourtant, les Français, ils étaient très, très bons. Années 80, 90, même 2000. On est là, on est toujours présents, quoi. Dani, on compte sur vous. Hein, non, mais c'est vrai, là, Paris 2024. Il faut rafler tout l'or. C'est pas du bronze, là. Que de l'or, ouais.
Il y a toujours eu des bons breakers en France.
Ah mais c'est vrai, il y a toujours eu Salibi qui le dit aussi. Non mais c'est vrai, il y a toujours eu des bons breakers. On est d'accord quand même.
Oui, c'est vrai.
Et nous les Américains, mais on est là quoi.
Oui, je suis d'accord. Mais nous, là, je me dis, je me bagarre pour qu'on remonte au classement et qu'on se mette en tête en haut de classement.
Et on espère.
Il faut négliger, voilà, dès qu'ils parlent de danse, ils savent que la France, si la France est là,
ça va
faire mal.
Il
faut. Moi, je pense que ça soit pour lui ou pour d'autres sportifs, le fait que ça se passe à Paris, en France,
ça va le motiver.
Finalement, ça va te donner une force supplémentaire.
Justement, alors.
Allez, Marie, on termine avec Dany Dan.
Tu vas être de mauvais esprit encore une fois.
Arrête, laisse-le tranquille un peu, l'invité.
Non, mais est-ce que le fait que ça soit à Paris, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu d'arbitrage maison, ça nous arrangerait?
Mais tu fais quoi là? Mais quand même, c'était propos là, Samy. Mais Marie, tu peux pas. Quand même. Oh là là.
En tout cas, on est derrière toi. On espère que ce sera positif, aussi bien pour la réponse que pour le reste.
Et c'est bien dit, ça, Libby Montana. Voilà. Un grand merci, Dany Dan, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
En tout cas, merci à vous et je vous dis à la prochaine, j'espère.
Ah ben, merci. On l'espère aussi. Vraiment. Bonne chance et à très vite, Dany.
Yes.
On poursuit cette émission avec justement le dernier carré de cette fameuse Coupe arabe au Qatar.
Time Sport. La troisième mi-temps.
La deuxième demi-finale, Qatar-Algérie, toujours 0-0. 30e minute de jeu, à peu près 33e minute, 0-0 à Libye. Les Aigles de Carthage qualifiés pour cette fameuse finale face à l'Égypte. Les nations africaines font du beau jeu et essaient justement. Ouais.
Et la compétition est belle.
Moi, elle est belle cette compétition.
J'ai entendu Arsène.
Marie l'a regardé tous les matchs.
Qu'on parlait justement Arsène Wenger qui est un des hauts responsables au niveau de la FIFA qui disait que la compétition était vraiment très belle.
Non, franchement, c'est une réussite. On s'attendait pas. Peut-être un post Coupe du Monde, phase finale de 2022.
Les stades sont super beaux.
La réalité, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive sur le terrain, vu que tout se passait bien, c'est déjà une réussite.
Ouais.
Il y a une vraie réussite pour le Qatar, c'est déjà ils sont en demi. Pour eux, c'est une double réussite parce qu'ils montrent qu'ils sont compétitifs à un an de la compétition. Alors après, on verra comment ils seront compétitifs dans un an, parce que ce ne sont pas les équipes types des autres équipes arabes, mais on voit qu'il y a un collectif qui se met en place, qu'ils ont bossé, qu'ils ne seront pas ridicules. Parce que c'est toujours un peu le risque quand une nation mineure accueille une compétition, c'est qu'elle prenne rouste sur rouste, et le Qatar est en train de démontrer qu'ils ne seront pas ridicules, qu'ils ont bossé. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont cru qu'ils étaient crédibles.
Pas, parce que le Qatar savait qu'ils allaient faire ce qu'il faut. Ils ont aussi... naturaliser des bons joueurs aussi.
Oui, ils ont fait le boulot de ce côté-là.
Et ça, j'en doutais pas. Donc, je suis pas étonné, moi.
Ouais. Non, mais sans être étonné, effectivement, Alibi a raison. C'est vrai qu'ils ont ce pouvoir, quelque part, de recruter et de faire venir des bons joueurs en les naturalisant. Mais malgré tout, c'est vrai que quand une équipe a jamais participé à une grande compétition, c'est toujours difficile d'estimer son potentiel. Donc là, on les voit sur le terrain, ils tiennent la dragée haute à une bonne équipe d'Algérie, parce que quand on regarde l'équipe d'Algérie qui est sur le terrain, c'est pas une équipe B, il y a de très bons joueurs.
C'est une belle équipe.
Une équipe qui tient tout à fait la route.
Moi, j'ai adoré le match Algérie-Maroc. Franchement, c'est un super match.
Non, il y a des bons joueurs, ça taquine un peu le ballon. Effectivement, pour eux, c'est une réussite. Ils savent, en tout cas, on n'avait pas de doute non plus sur le fait que le Qatar savait organiser des compétitions, parce que des compétitions sportives, ils en organisent tous les ans. Ça fait quand même 10 ans qu'ils sont présents partout, avec des grands tournois de tennis, beaucoup de choses qu'ils ont organisées. Donc ça, on n'est pas trop surpris. Un mondial de hand où ils avaient beaucoup surpris. On se rappelle qu'ils avaient fait finale du mondial de hand. Ça avait beaucoup fait jaser, parce qu'à l'époque, il y avait, comme le handball est beaucoup plus permissif que le football en termes de
joueurs étrangers.
Ils avaient gardé leur nom, c'était n'importe quoi. Il y avait même un ancien champion du monde français qui avait joué la finale plus tard du Qatar. C'était un panel de joueurs. C'était un peu une dream team et ils étaient allés en finale. Donc, ils pourront pas faire pareil dans le foot parce que le foot est plus sérieux.
Les clubs qatariens, ils arrivent quand même à attirer pas mal de joueurs qui viennent.
Ils attirent pas mal de monde. Mais c'est bien. En ouverture de ce mondial 2022.
46e au classement FIFA, le Qatar.
Ça remonte bien. Vous restez avec nous, avec Yasmine, avec Louis-Marie et aussi notre invité Alibi Montana. D'ailleurs, on va réécouter un nouveau tube. Allez, à la suite de cette dernière pause. N'oubliez pas, vous pouvez réagir avec le 01 53 48 3000. À de suite avec Giovanni.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour avec Alibi Montana et sans oublier l'équipe de Time Sport, Yasmine et Louis-Marie. Nouveau titre encore, Alibi Montana. C'était lequel celui-là pour les auditeurs et les auditrices?
C'était donc Gun Validé. Il y a trois titres qui sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement en ce moment. Donc c'est La Caille avec Paula Suarez, Gun Validé aussi en solo. Et il y a le titre Mani aussi sur la compil Scarface, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes.
Et ben voilà, il faut foncer sur ces fameuses plateformes afin d'y écouter. Et voilà quoi.
Toutes les plateformes. Nous... Les gens font leur choix. Deezer, Spotify ou les autres. Elles sont sur toutes les plateformes.
Voilà. Ça, en tout cas, c'est bien dit. Tout comme le match Qatar-Algérie, toujours 0-0. Eh oui.
Donc le Qatar, ça joue. Hein,
le Qatar, ça joue. Voilà. Eh oui, le Qatar,
finalement,
ça joue. Allez, à peu près à la. Ouais, c'est bientôt la première période. La première mi-temps, excusez-moi. Eh oui, mais il y a toujours 0 partout. Allez, les Bleuets, là aussi, c'est les championnats du monde. D'handball, c'est bien ça, invaincu depuis le début de cette fameuse compétition.
Ah bah ouais. Les filles sont
quart de finale,
toujours très très en forme.
La Suède,
les championnes olympiques, faut pas l'oublier,
ouais.
qui ont été énormes que cet été, et qui bah là sont encore en jeu pour faire le doublé, aller chercher leur troisième titre mondial, je crois, si je me trompe pas, ce qui serait quand même pas mal du tout. Là, elles sont en quart contre la Suède. C'est compliqué. On sait que la Suède, c'est une équipe très costaud, qu'elles avaient beaucoup, beaucoup de mal à battre en demi-finale au jeu.
La Suède, c'est fort en handball.
Ah, ben, c'est très fort. Et là, c'est une équipe qui remonte aussi, qui était pas très forte ces dernières saisons.
Ouais.
Et là, qui est en plein renouveau. Ils nous ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes en demi. Donc, je pense que c'est un peu le match clé pour les Bleus. Après, si elles passent ce match, je les vois bien en finale. Et après, bon, la Norvège. C'est une autre histoire, on les attend à chaque fois, ils sont très très fortes, mais elles gagnent pas.
Ah, encore une fois, moi je suis assez déçue qu'on mette pas en valeur le handball féminin. C'est l'actu du moment pour moi. Et c'est pas assez médiatisé, on n'en parle pas assez. Ouais. Enfin,
nous on oublie beaucoup d'actu, nous. En France, hein.
Le problème du handball non, mais c'est féminin, vrai. C'est qu'on attend toujours la finale.
On les a oubliés.
Pour que ce soit exposé, quoi. Vraiment exposé.
C'est vrai que c'est un sport qui est, de manière assez surprenante, assez peu télévisé, parce que c'est un sport qui est spectaculaire. Pour le coup, alors, je vais me faire des ennemis, mais autant il y a des sports féminins que j'ai plus de mal à regarder, parce que je trouve que la dimension athlétique, ça se fait sentir, notamment en football. J'avoue que je trouve qu'il y a une vraie différence.
Toi, football féminin,
je trouve qu'il y a moins de, c'est plus dur de, il y a une vraie, l'image qu'on voit beaucoup moins en hand féminin. Moi, je trouve que le hand féminin, n'a rien d'envie masculin en termes
de. Ça, c'est technique.
En termes de télégénie.
Bien sûr.
C'est un sport qui fonctionne très, très bien. On a toujours le même problème. Je comprends pas que ça soit un sport qui soit si peu vendu. Mais moi, ma théorie là-dessus, c'est
après,
que.
C'est une histoire aussi de sponsors. Les sponsors sont pas les mêmes.
Mais tu sais
ils ne mettent pas les mêmes budgets.
Mais pourquoi
aussi.
Pourquoi? Parce que.
C'est une histoire d'audience aussi.
Mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait.
Pourquoi
en fait, il n'y a pas d'audience sur le handball alors que c'est un des sports les plus vifs au niveau pratiquant, notamment en scolaire. C'est un des sports où il y a le plus
c'est
de licenciés.
Ouais.
Ça marche très très bien. C'est pour ça qu'on
fait collège, même école primaire.
Et en fait, le vrai problème de ce sport, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de base supporter en France. Les clubs ne font que très peu d'audience.
Mais le championnat, il marche bien.
Il marche bien, mais pas tellement en termes d'audience.
Ouais.
Et finalement, il n'y a pas cet aspect supporter qui fait que, comme le dit Alibi, quand il y a les supporters, il y a la télé. Quand il y a la télé, il y a les sponsors et c'est un cercle vertueux qui se met en place.
Ouais.
Bien sûr.
Et en balle, il manque ce socle de supporters.
On peut le voir comme ça, oui.
Et ce côté grand club, alors qu'en plus, le championnat marche, que les clubs fonctionnent en Coupe d'Europe. C'est juste.
Les sponsors, on le sait très bien, ils viennent quand il y a l'audience.
Bien sûr.
Donc c'est là qu'ils injectent de l'oseille, hein. C'est quand il y a l'audience.
Bien sûr, et pareil, les médias, ils viennent, ils médiatisent quand ils sentent qu'il peut y avoir de l'audience.
C'est la même chose pour tout.
Oui. Ça part justement, pour moi, le sport professionnel, en règle générale, part des supporters. Vous n'avez pas de sport professionnel sans supporters, parce que dès qu'il y a des supporters quelque part, la télé arrive, parce qu'elle veut retransmettre à ses supporters qui ne peuvent pas potentiellement être au stade. Et ensuite, une fois qu'il y a les supporters, les sponsors arrivent, mettent de l'argent, donc ça financiarise la chose. Il ne faut pas oublier que c'est le supporter qui est à la base de tout sport professionnel. Ça, parfois, les athlètes l'oublient quand ils n'ont pas envie de signer un autographe. Ils oublient que ceux qui les payent, ce sont les supporters. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il y a tellement peu de sports en France qui marchent en termes professionnels. Pourquoi le football français est moins fort que le football anglais? C'est juste une histoire de base supporter. Parce que l'économie, elle n'est pas plus forte en Angleterre. Il n'y a pas de raison. Sauf que les supporters.
Il y a beaucoup plus d'argent dans le football anglais
que le football français. Il y a beaucoup plus d'argent.
C'est encore une histoire d'économie.
Mais c'est ce que je suis en train de te dire, Alibi. C'est qu'il y a de l'argent parce qu'il y a des choses à vendre. Les sponsors viennent parce qu'il y a des gens à qui vendent les choses.
Exactement.
Et comme en France, il n'y a pas assez de supporters, il n'y a pas de culture sport qui soit assez forte.
Ouais.
Les gens ne sont pas prêts à assez consommer. Et bien, vous regardez les sponsors du foot en France, ce ne sont que des PME. C'est souvent des PME locales parce qu'il n'y a pas assez d'intérêt à avoir une économie et un sponsoring national comme il y en a en Angleterre ou en Allemagne. Les grands groupes sponsorisent
les clubs.
Mais où sont nos grands groupes? Total, ils financent qui?
Ouais.
ils financent pas de clubs de foot.
Non, non.
Les grands groupes français. Et Dieu sait qu'on a parmi, on est par, on est le pays européen qui a le plus de, pays.
Il y a
plus
de grandes entreprises. Il y en a pas mal.
Elles financent pas le sport.
Et pourtant, même si, même si ça a rien à voir, c'est un, c'est un autre sport. Alors, j'ai parlé de Koh-Lanta, même s'ils ont triché.
Alors, Alibi, Koh-Lanta, mais oui, Alibi.
T'as vu le nombre de pubs qu'il y a.
Ça fera plaisir à Giovanni Houllère.
T'as vu le nombre de pubs qu'il y a entre les chapeaux de Koh-Lanta.
Il y en a pas mal.
Pourtant, c'est les grands groupes là, ils mettent de la pub, ils mettent de l'éveil. Voilà, donc c'est pour te dire, tu vois comment ça marche.
Mais les grands groupes, comme tu le dis, ils achètent de l'espace média, mais ils sont pas vraiment présents dans le sponsoring de club au fond. Tu vois, il n'y a pas un grand groupe qui a acheté un club. Il n'y a pas un grand groupe qui a investi en termes de partenariat, en termes de.
Mais pourtant, hier, ils ont acheté de la pub sur Koh-Lanta. Ah bah pourtant, ils ont triché cette saison. Hein. Mais putain, de la pub, ils en ont acheté.
J'ai l'impression qu'ils trichent toutes les saisons à Koh-Lanta. Personne n'est jamais content.
Il suit ça de près. Et Yasmine, toi aussi, Koh-Lanta.
Oui,
c'était
quoi, c'était des... Non, pas du tout, non.
Allez, monsieur nos confrères de TF1.
Justement sur le hand, c'est dommage que quand on parle de sport féminin ou même là de hand féminin, on le ramène au sport en général. Moi, quand je parlais du hand qui n'était pas assez médiatisé par rapport aux filles qui étaient en quart de finale, juste un exemple, la une de l'équipe. Au lieu de faire une une sur le quart de finale du handball féminin, on te fait une une sur l'OL, enfin l'Olympique Lyonnais avec Juninho, qui avec qui ça marche plus. Enfin, je trouve ça vraiment dommage et pas normal.
Mais surtout. Les unes de l'équipe, c'est quasi systématiquement du foot. Il faut quand même se mettre d'accord.
C'est ce qu'ils vendent le plus aussi.
C'est comme ça, c'est ce qu'ils vendent. À l'arrivée, je suis d'accord que c'est dommageable parce qu'il y a plein de.
Je veux bien.
Il y a plein de unes qui sont. Qui serait
non mais dans la rédac, ils vont même pas se poser la question. Entre mettre en couverture parler du départ de Juninho et du handball féminin, ils vont vite faire le choix.
Ils te mettent on a un quart de finale en hand féminin et c'est on te met une petite un petit encadré du pain sur la planche pour les handballeuses françaises. C'est pas normal.
Après, faut voir aussi
beaucoup plus.
Là, on peut parler du désastre qui est devenu la presse écrite aussi. Faut aussi reconnaître que ils ont plus les mêmes
critiques. Souvent, quand c'est du sport féminin.
Non,
critique les médias.
Non, je critique pas moi. Alors, je critique absolument pas les médias. Je ne vais pas de critiquer l'équipe. Mais la réalité, c'est qu'ils ont plus ils ont plus de rédac. Vous parlez de rédac à l'équipe, mais il y a quasiment plus de spécialistes dans les petits sports. Ils ont très peu de couverture dans les sports et donc à l'arrivée, les seuls sports où ils ont vraiment du monde, c'est le football. Mais quand tu vois que aujourd'hui dans l'équipe, qui écrit les brèves en rugby? C'est Richard Esco. C'est une plume du rugby depuis 40 ans. Il a écrit des livres et tout, et c'est lui, c'est le seul qui est capable d'écrire une brève sur le rugby. C'est quand même hallucinant que sur le site internet, ça soit écrit par ce mec-là. C'est que dans les sports mineurs, il n'y a pas assez de monde. Et même parce que pourquoi? Parce que l'équipe, ils n'ont plus de moyens. Parce que ça coûte très cher, que plus personne n'achète de journaux et que le modèle économique y plonge.
Ça a changé.
On a déplacé le problème. C'est pour ça. Il faut bien qu'ils vivent. Moi, je ne vais jamais les critiquer de mettre telle ou telle une. Il faut bien qu'ils vivent. Hein. Et c'est dur de vivre aujourd'hui quand vous êtes équipe.
ADB, Yasmine, on termine avec justement le dernier sujet de cette émission avec le football anglais.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, c'est Marcelo Bielsa, Alibi, qui se fait cartonner, si je peux permettre, par Pep Guardiola. Eh oui, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Leicester United hier mardi en Premier League. Tout de même, un petit 7-0 grâce au début.
C'est l'élève qui dépasse le maître quelque part. Parce que Guardiola, il a toujours dit que Bielsa, c'était son maître.
Beaucoup de respect entre les deux hommes, c'est sûr.
C'était inspiré de lui, que c'était son entraîneur de référence. Et là, de voir ça, quelque part, c'est...
Des buts de Foden, Grealish, De Bruyne, Mahrez, Stone et aussi Ake. Ça, c'est incroyable quand même.
Moi, je veux bien.
Alors, le Mahrez.
Il va falloir qu'on arrête cette escroquerie.
Alors, c'est quoi?
Bielsa est peut-être le maître de Guardiola. Je ne sais pas à quel moment il l'a été dans les résultats. La réalité, c'est que qu'on arrête d'expliquer que Bielsa est un grand entraîneur. C'est un grand théoricien du football.
Mais c'est Guardiola lui-même.
J'ai failli être d'accord avec toi. Et puis quand t'as terminé comme ça, c'était pas possible.
C'est un théoricien du football, Bielsa. Il n'a pas de palmarès, il n'a jamais rien gagné. Il ne sait pas faire gagner une équipe. C'est quelqu'un qui... Et comme tu le dis, il a inspiré des joueurs.
Je pense pas que c'est une histoire de palmarès, c'est une histoire de passion.
Mais qu'il soit passionné, tu veux bien, mais un entraîneur, il est là pour gagner. Il est là pour faire des résultats. Il n'en a jamais fait. Qu'on arrête de m'expliquer que c'est un grand entraîneur. Qu'on me dise que c'est un théoricien du football, je respecte ça infiniment. C'est quelqu'un qui pense le football et qui inspire les vrais coachs. Mais lui, force est de le constater, après, c'est pas un nouveau, hein, ça fait 40 ans qu'il est dans le foot.
Mais bien sûr.
40 ans, il n'a pas de palmarès. Il a gagné les JO une fois avec l'Argentine, pardon, quand il était jeune, avec des jeunes. C'est tout ce qu'il a gagné. Or, moi, je veux bien qu'on m'explique que Bielsa est un grand entraîneur. Mais non, c'est une escroquerie, c'est un très grand théoricien du football, et ouais, la majorité de ses préceptes ne sont pas applicables dans la réalité.
Oui, mais
c'est pour
peut...
ça que c'est d'autres qui s'inspirent de ses préceptes et voilà, qui arrivent à faire des vraies choses applicables.
Peut, on ne peut pas empêcher des gens comme Guardiola alors, et d'autres de vanter les qualités de Bielsa et aussi de dire que Bielsa les inspire.
Ah mais on est d'accord, mais voilà, c'est
vrai. Ça n'empêche pas de mettre 7-0 à Bielsa, mais,
mais c'est tout, l'inspire. C'est toute la différence
c'est vrai,
entre, c'est toute la différence entre un théoricien et un coach.
Yasmine, alors bah,
pour moi, c'est plus que l'élève a dépassé le maître. Ouais. Là, pour moi, il n'a pas perdu 1-0, Bielsa, il a perdu 7-0.
Ouais, 7-0, bon.
Moi, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'a pas réussi à réagir. Et cette défaite.
Ah, c'est compliqué face à City aussi, hein, avec l'Armada qu'il a.
Effectivement, il avait des blessés.
Moi, je ne vais pas jeter Bielsa pour ça, parce que j'ai déjà vu, par exemple, le Brésil perdre, je ne sais pas, 5-0 face à l'Allemagne. C'est pas pour ça que je vais jeter les Brésiliens. Donc, voilà, c'est sûr, c'est une lourde défaite. C'est du tennis, du basket. On peut dire ce qu'on veut. Mais en tout cas, je pense que la passion qu'il y a pour Bielsa dans le monde du foot va pas s'arrêter à cause de ça.
Et là, je suis tout à fait d'accord avec Alibi. Concrètement, ce match, il veut rien dire dans l'histoire de Bielsa. Ça veut rien dire. Débranlé, il en a pris, il en reprendra.
On est d'accord.
Et de toute façon, l'écart des équipes est tel que sur un match. Franchement, City, sur un match où ils sont chauds, ils peuvent faire exploser n'importe qui. Donc, Bielsa ou pas Bielsa, Leeds, ils n'ont pas les moyens de rivaliser avec un City qui joue son jeu. Ce que je dis juste, c'est qu'il ne faut pas juger Bielsa sur ce match, certainement pas, ça serait injuste. Jugeons-le sur sa carrière. Moi, je pense que Bielsa, il serait très bien à écrire des bouquins et à théoriser le football.
Ouais.
Peut-être que sur un banc, moi, je l'embauche jamais.
Ouais. Pourquoi ?
Parce que ça ne marche pas.
Si tu n'embauches pas Bielsa, putain, il y a beaucoup d'entraîneurs qu'on
va embaucher. Il y a quand même des entraîneurs qui ont plus. Elibo, pas plus de palmarès que Marcelo Bielsa, si on parle d'entraîneurs.
On termine avec Yasmine et l'invité. On termine avec toi, Yasmine.
Il a jugé sa carrière, mais juste cette saison, il est déjà 16e de Premier League, à 5 points du relégable.
Il reçoit
Arsenal, je ne sais plus quelle équipe, à la fin de l'année, juste après Noël. Enfin, ça va être très très compliqué.
Ses résultats parlent pour lui.
Ouais. Exactement.
Mais contre lui, en l'occurrence.
Non, mais il est sur la sellette, tout simplement. Il est sur la sellette.
On verra bien. On termine avec Alibi Montana. Un grand merci, Alibi, d'avoir passé ce moment avec nous.
C'est toujours un plaisir de faire tes émissions.
Non, c'est cool, vraiment, de le recevoir, Alibi Montana.
Et puis, tu sais que j'adore le sport. Donc
c'est un franc-tireur. Ouais, avec son franc-parler, c'est vrai. C'est bien de l'avoir. Un grand merci à Alibi, un petit clin d'œil aussi à Majid, peut-être une petite dédicace.
Qui nous écoute,
aux personnes, aux fans aussi, Alibi.
Ma femme qui écoute, Salem et toute sa famille, les gens de la Courneuve, et puis tous les gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snap.
On n'est rien sans ses supporters.
C'est ça, voilà. Merci, Alibi, on se retrouve dès demain, à partir de 20h, la suite des programmes, ça continue sur l'antenne de Beurre FM, à 22h avec Vanessa. Bye bye.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en...